Huitième jour avec Claire Bressolet.
Bonjour. Il y a quelques semaines, est apparu un film dans les cinémas qui a été bien critiqué en mauvaise part. Il s'agit de Cervantes avant Don Quichotte de Alejandro Amenábar. Et je voudrais le défendre, ce film. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas d'un film historique. Il s'agit d'une reconstitution, même si c'est une reconstitution très documentée. Deuxièmement, on ne peut pas comprendre ce film sans le mettre en perspective avec l'autre chef-d'œuvre de Alejandro Amenábar, à savoir La lettre à Franco, avec Miguel de Unamuno qui hésite face à la montée des totalitarismes, en l'occurrence du nationalisme espagnol en 1936 à Salamanque. Comparons les deux films. Dans le premier, 2019, il s'agit d'un écrivain, d'un président d'université, d'un intellectuel de haut vol, qui est contraint de faire ce à quoi il ne croit pas et ce qu'il ne veut pas faire par la force d'un pouvoir totalitaire. Dans le deuxième, on n'a pas le nombre. On a un tyran, un fou, une sorte de pacha, qui est pervers, très intelligent et qui s'ennuie, qui a besoin d'être distrait, et il est face à un jeune. La différence entre les deux films, c'est qu'on a un vieillard, Miguel de Unamuno, et on a un jeune qui s'est fait arracher un bras ou à la bataille de Lépante et qui se retrouve pendant 5 ans prisonnier du sultan d'Alger avec d'autres nobles espagnols. La différence est considérable, mais le but est le même. C'est de montrer qu'on va obliger quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas faire et que le pervers va jouir du pouvoir qu'il peut exercer. Il le mesure ce pouvoir à la souffrance qu'il exerce sur l'autre. On a la même chose dans Britannicus de Racine, quand Néron, derrière un voile, un mur volatile, on va dire, peut jouir de la scène entre Britannicus et Junie, où Britannicus est obligé de montrer à Junie qu'il ne l'aime plus et qu'il la délaisse. Je voudrais défendre ce film parce qu'il fait l'apologie de l'art. En effet, vous nous vaincrez, mais vous ne nous convaincrez pas, et le dernier mot de Miguel de Unamuno, prononcé donc dans l'amphithéâtre de son université à Salamanque, face à tous les jeunes qui montent dans ce totalitarisme et qui sont enrôlés et heureux de l'être, parce que cela leur donne un sens à leur vie. Miguel de Unamuno peut parler, il sait qu'il a peu à vivre, il est fragile de santé, et de fait, 2 mois après cette destitution de sa fonction de président, il mourra d'un infarctus. En fait, il y a un jeune, c'est Cervantes qui est jeune et il sait qu'il a du talent parce qu'on lui a dit et il le remarque. Donc là, il ne peut pas lâcher tout. Il mourrait et il ferait mourir ses pères, les nobles. Donc il est obligé de ruser. Et il ne va pas argumenter, il va théoriser par la littérature, par le conte de fées. On a une réécriture des Mille et une nuits où il s'agit de tenir en haleine un tyran par la féerie de l'art. Il y arrive. Il y arrive au prix de faire ce qu'il ne veut pas faire. Les critiques ont souligné l'indécence de l'homosexualité, de Cervantes, mais rien ne nous dit que dans ce fameux duel qu'il a eu à Madrid avant la bataille de Lépante, c'était pour une question d'homosexualité. Le film, au contraire, laisse entendre qu'il a été accusé injustement. Le décor, où on voit toujours une sorte d'Algérie très sensuelle, eh bien elle devient elle-même une fiction. Car le génie d'Amenábar, c'est d'avoir mélangé réalité et fiction, comme il le fait dans la trame de Cervantes de Don Quichotte. Ce mélange de fiction et de réalité nous renvoie à notre monde, qui est un monde de l'image, qui fonctionne complètement par cliché. Alors, ce film valorise complètement l'art qui va dépasser le cliché, qui va se faufiler avec ruse et intelligence pour sauver non seulement un grand écrivain, Cervantes lui-même, mais ses camarades, ses compagnons. Cervantes va fléchir le sultan et lui demander l'autorisation de pouvoir sortir de la cour où ils sont emprisonnés pour aller travailler. Il faut d'abord convaincre les nobles. Ce n'est pas une mince affaire parce qu'un noble ne travaille pas. Et petit à petit, grâce à cette sortie dans Alger, ils pourront affréter une galère qu'ils conduiront eux-mêmes et s'échapper, s'évader. Donc on a ici le succès de quoi ? Non pas de la conviction et de l'argumentation, comme dans le premier film, qui est un échec de l'argumentation, puisque Unamuno sera destitué de sa fonction de président de l'université et qu'il mourra 2 mois plus tard. Là, au contraire, on a un succès de quoi ? Eh bien, de la création artistique, de la poésie, de l'art, du roman, de la parole, de la féerie. Et je pense que ce film a beaucoup à nous apprendre dans notre monde marqué, au contraire, par le désespoir, par l'impasse. On ne peut plus rien dire, ce n'est plus comme avant. Je trouve que ce film est un exemple parfait pour notre 8e jour, pour notre émission, de réflexion sur l'art de la parole, l'art aussi de la ruse. Mais n'a-t-on pas la ruse comme premier exemple d'une grande victoire avec la guerre de Troie ? On célèbre Ulysse comme le héros au-dessus de Achille et de Agamemnon, qui sont les héros de la force, on va dire. Lui, il est celui de la ruse, et c'est par la ruse qu'il a délivré Troie. Alors je vous laisse aller revoir ce film. Surtout, voyez le premier film, celui de 2019. Cervantes avant Don Quichotte ne peut se comprendre que à partir de Lettres à Franco de Alejandro Amenábar.
Dans un village de la Manche vivait il n'y a pas longtemps un de ces gentilshommes qui ont une vieille lance, une rondache rouillée, un cheval maigre et un lévrier. Un bouilli, une vinaigrette le soir, des œufs frits le samedi, le vendredi des lentilles et quelques pigeonneaux de surplus le dimanche emportaient les 3/4 de son revenu. Le reste payait sa casaque de drap fin, ses choses de velours avec les mules pareilles pour les jours de fête et l'habit de gros drap pour les jours ouvriers. Sa maison était composée d'une gouvernante de plus de 40 ans, d'une nièce qui n'en avait pas 20 et d'un valet qui faisait le service de la maison et de l'écurie, travaillait au champ et taillait la vigne.